Attention, avec ce sujet qui a défrayé la chronique depuis plusieurs années, depuis au moins 5 ans, et donc qui nous préoccupe toujours et qui est un vrai problème de société. Donc le téléchargement illicite, alors tout d'abord des chiffres, ils sont phénoménaux. Quels sont les modes de téléchargement, puisque nous sommes en matière d'Internet, donc la technique est toujours extrêmement importante. Il faut aborder la technique pour savoir ensuite quelles solutions juridiques on peut apporter. Enfin, quel est le dispositif légal, comment il est appliqué, et pour terminer, le bilan et l'enjeu. Les chiffres, il y a plusieurs études, bien entendu, j'en cite trois, une étude allemande d'Ipsos Allemagne de 2009 et deux études de l'ADOPI de 2011, l'une de janvier et l'autre de mai. L'étude allemande de 2009 montre qu'au niveau mondial, le téléchargement illicite est un phénomène massif, hein, puisque la moyenne sur les internautes interrogés, donc 44% téléchargent illicitement de la musique et 38% des vidéos. Bon, là, c'est intéressant, on voit quels sont les pays qui sont dans le top 10. Donc d'abord la Chine, ensuite la Russie, l'Inde, là un pays européen, ensuite l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Brésil, l'Italie, les États-Unis, la France, avec 15% donc dans les deux cas, ensuite le Royaume-Uni et l'Allemagne, 11% et 8%, donc là sont des scores honorables. L'étude ADOPI de janvier 2011, elle nous montre que, et là le chiffre est très clair, 49% des Français déclarent télécharger illégalement. Dans ces 49%, 13% le font de manière régulière et 36% occasionnellement. Ensuite, 25% des internautes sont sensibilisés par la ADOPI et sont incités à changer leur comportement, tandis que 52% restent totalement indifférents. Alors, l'étude de mai 2011 montre qu'il y a un changement de mentalité, puisqu'en mai 2011, le résultat de l'enquête nous montre que 50% des internautes sont incités à changer leur comportement et sont favorables à la ADOPI. 7% des internautes interrogés ont reçu une recommandation ou bien connaissent quelqu'un qui en a reçu une. Et 72% déclarent avoir réduit ou arrêté leur consommation suite à une recommandation. Alors maintenant, les modes de téléchargement. Donc pour commencer, il faut savoir que les lois ADOPI ont un prisme très large, puisqu'elles visent l'usage donc d'un service de communication au public en ligne, tel que défini par la loi LCEN, qui serait utilisé à des fins, donc et là nous sommes dans le domaine du droit d'auteur, à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition, ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin, bien entendu sans autorisation des titulaires des droits lorsque cette autorisation est requise. Donc l'enjeu majeur des lois ADOPI est et reste le téléchargement. Donc il y a trois techniques, on considère aujourd'hui qu'il y a trois techniques de téléchargement. Donc on va les examiner. Le téléchargement direct qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est donc le téléchargement à partir d'un site qui a stocké des fichiers. Donc là, il y a deux parties concernées. Il y a d'une part le site qui est l'éditeur, qui est le site sur lequel on télécharge les fichiers. Donc ce site stocke les données. Donc il met à disposition des œuvres, éventuellement sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Et il y a d'autre part l'internaute qui lui télécharge et qui donc en téléchargeant sur son disque dur commet un acte de reproduction, à nouveau également probablement sans autorisation. Il y a le système dont on a beaucoup parlé au moment des discussions sur les lois ADOPI, qui est le système de pair à pair, qui là est un système qui fonctionne entre des utilisateurs, donc chaque utilisateur mettant à disposition des autres utilisateurs du réseau ses propres fichiers. Donc chaque utilisateur est dans ce cas stocke, dans ce cas des fichiers sans autorisation, donc il met à disposition, et en même temps il télécharge, donc il reproduit également probablement sans autorisation. Autre système qui se développe énormément actuellement, c'est ce qu'on appelle le streaming ou bien la lecture en continu. Alors dans ce cas, l'analyse juridique est plus délicate puisque nous avons d'une part, bien entendu, le site qui met à disposition les fichiers. Donc ce site a stocké ces fichiers. S'il les a stockés sans autorisation, il met à disposition sans autorisation des œuvres protégées. donc il commet une infraction. En ce qui concerne l'internaute qui lit en continu ses œuvres, là, on peut s'interroger sur l'incrimination de cet agissement, puisque est-ce qu'il s'agit d'une représentation, est-ce qu'il s'agit d'une reproduction, est-ce qu'il s'agit d'une mise à disposition. Là, on est un petit peu gêné en fonction, au regard aujourd'hui, des critères du droit d'auteur. Il s'agit peut-être plutôt d'un acte de diffusion, et là le débat est ouvert pour donc aborder juridiquement le cas précis du streaming. Alors maintenant le dispositif légal, donc on voit en retraçant tout simplement la chronologie du dispositif légal d'aujourd'hui que tout a commencé avec des accords en 2007, des accords entre les FAI, les fournisseurs d'accès et les ayants droit. Ensuite, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel en juin 2009. Donc là, on voit que le débat était très animé. Il mettait en jeu donc un débat très houleux sur les questions de données personnelles. Donc la décision du Conseil constitutionnel suivie des lois donc de 2009, les deux lois Hadopi. Toute une série de décrets, dont les derniers sont très récents, puisque nous avons un dernier décret d'avril 2011. L'organigramme de la Hadopi, on voit que dans cet organigramme, il y a deux structures très importantes. D'une part, la commission de protection des droits, qui est en charge de la réponse graduée. D'autre part, le collège, qui est responsable des missions confiées à la Hadopi. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous un membre du collège. Donc, quels sont le fonctionnement des lois Hadopi s'articule autour de trois notions. D'abord, il doit y avoir atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin. Ensuite, il doit y avoir manquement à une obligation de sécurisation d'un service d'accès, de l'accès à un service de communication publique en ligne. Et enfin, extrêmement important, quel est le moyen d'identification du titulaire de l'accès à ce service de communication publique en ligne utilisé en violation d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin. Eh bien, ce moyen technique d'identification, c'est l'adresse IP. Les missions de la Hadopi, donc nous avons à droite la commission de protection des droits qui est chargée de mettre en place ce que l'on appelle la réponse graduée en cas donc d'infraction. Nous avons également un collège de 9 membres qui a globalement 3 missions, une mission technique, une mission d'encouragement au développement d'offres légales et enfin une mission d'observation, d'utilisation licite ou illicite des œuvres. Alors, quel est le mode de saisine de la commission de protection des droits ? La commission de protection des droits peut être saisie par deux voies. D'une part, par des agents assermentés, qui sont des personnes qui ont été désignées par les sociétés de gestion de droits d'auteur et qui ont été agréées par décret. Et d'autre part, tout simplement, suite à des constats dressés par les agents de police judiciaire, qui ont informé le procureur de la République, qui lui décide ou ne décide pas de saisir la commission de protection des droits. Maintenant, quel est le circuit qui est suivi donc selon la loi et qui peut aboutir à la saisine du parquet ? Donc là, c'est un schéma qui est en ligne sur le site de l'Hadopi. D'abord, il y a donc la constatation des faits, comme on vient de le voir. Il y a éventuellement saisine de l'Hadopi, qui a un délai de 2 mois pour examiner les faits qui lui sont soumis et pour émettre ou non une première recommandation qui est envoyée par le FAI au titulaire de l'accès mis en cause. Suite à cette première recommandation, il y a un nouveau délai de 6 mois cette fois. Si pendant ces 6 mois, il y a réitération des faits ou nouveaux faits illicites, il y a une seconde recommandation à nouveau envoyée par courrier électronique et cette fois par lettre remise contre signature, puisque là, on voit que les faits commencent à être, la situation commence à être plus grave. Donc, il faut être en mesure de s'assurer que l'intéressé a effectivement pris connaissance de ce qui lui est reproché. Ensuite, dans un délai de 12 mois, si à nouveau il y a réitération des faits ou faits nouveaux et illicites, là il y a notification de l'Hadopi, délibération, et donc l'Hadopi délibère et décide si oui ou non elle saisit le parquet. Quelles sont les sanctions pénales prévues par les textes ? Il y a 2 types de sanctions. Le premier cas est celui de la négligence caractérisée. donc dans l'année suivant la deuxième recommandation au cours des 12 mois. Donc là, c'est une amende de 1 500 € avec éventuellement une peine complémentaire qui est la suspension du service. Une suspension du service avec une interdiction donc de souscrire un nouveau contrat pendant ce mois de suspension sous peine d'amende, et en cas donc et une amende de 6 mois de prison, 30 000 € pour mise à disposition de dispositifs de nature à porter atteinte à un droit d'auteur. Alors maintenant, quelles sont les sanctions pénales dans les cas plus graves de contrefaçon ? Donc là, c'est la peine prévue par le Code de la propriété intellectuelle, classiquement en droit d'auteur, donc 3 ans de prison, 300 000 €, plus si c'est en bande organisée, avec la peine complémentaire de suspension qui là peut être d'une année, à nouveau l'interdiction de souscrire un nouveau contrat sous peine d'amende. Et dans la mesure où le contrat avec le FAI n'est pas résilié, obligation de continuer à payer son abonnement. Le FAI qui n'a pas suspendu le service est lui aussi passible d'une sanction, d'une amende de 5 000 €. Alors maintenant, la jurisprudence. Il y a des décisions très intéressantes qui ont été rendues sur différentes questions. Premièrement, la question classique de la responsabilité de hébergeur-éditeur. Alors, bien entendu, Dailymotion, ce type de site, ont fait l'objet de nombreuses décisions de justice. Là, je cite une décision qui a été jusqu'en cassation, c'est donc l'affaire Père Noël. Une vidéo du film Joyeux Noël avait été postée sur Dailymotion, et Dailymotion avait reçu une notification lui demandant de retirer cette vidéo. Dailymotion n'a pas obtempéré et donc a été assigné. Et la Cour de cassation a confirmé que Dailymotion a pu agir ainsi dans la mesure où la notification qui lui a été faite n'était pas suffisamment précise et que donc il ne pouvait pas identifier clairement quelle était la vidéo qu'il devait retirer en tant qu'hébergeur. Il y a des décisions intéressantes qui ont concerné Google. Il y a une décision dans laquelle Google a été déclaré comme contrefacteur. Google, donc Google Vidéo France, avait permis, donc à partir de la page Google, de visionner une vidéo, sans autorisation, bien entendu, du titulaire de droit. Et donc, il a été jugé que Google s'était accaparé, c'est le terme utilisé par le juge, s'était accaparé cette vidéo pour la représenter auprès de ses propres clients, qui était distinct des sites indexés, donc la responsabilité de Google a été retenue. Il y a une autre décision qui a concerné Google qui est très intéressante. Donc vous connaissez tous, j'imagine, la régie publicitaire de Google qui vend des mots-clés, ces mots-clés donnant lieu à l'affichage de ce qu'on appelle les liens commerciaux ou liens sponsorisés qui s'affichent en haut et sur le côté à droite des pages de résultats de Google. Donc ces liens vers les sites sont générés par l'achat de mots-clés, et notamment il y a bien entendu des liens qui s'affichent à partir de mots-clés tels que torrent ou mega upload, et donc Google a été mis en cause pour vente de ces mots-clés au motif que la vente de ces mots-clés a été considérée comme facilitant l'accès des internautes à des outils de téléchargement illicites d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Alors, il a été jugé que Google n'est pas responsable des mots-clés suggérés aux annonceurs et que cette suggestion de mots-clés n'est pas suffisante pour caractériser une atteinte à un droit d'auteur. Cette décision s'est inscrite dans un débat beaucoup plus large sur la responsabilité de Google sur l'achat de mots-clés, qui est une problématique assez complexe qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Maintenant, là, il y a d'autres décisions. Une décision très intéressante, c'est l'affaire Les Choristes, puisque le modèle économique de nombreux sites de téléchargement illicite, c'est de se financer par la publicité. La question se pose de savoir si les annonceurs peuvent voir leur responsabilité engagée, puisque en rémunérant le site sur lequel ils publient leur bannière, ils permettent à ce site d'exister économiquement. Et donc, peut-on considérer qu'ils sont complices des actes de contrefaçon qui sont commis sur ce site ? Donc, dans l'affaire Les Choristes, les annonceurs dont les bannières étaient affichées sur le site qui permettait le téléchargement illicite de ce film a été engagé sans succès, puisqu'il a été jugé que donc les annonceurs n'avaient pas sciemment fait publier leur bannière sur ce site de téléchargement illicite. Donc là, on voit que c'est un problème de preuve. Alors, deux autres décisions. Une décision sur l'adresse IP, cette fameuse adresse IP. On a reproché à un agent assermenté d'avoir cité l'adresse IP du titulaire d'accès mis en cause dans son constat. Il a été jugé que la mention de cette adresse IP dans le constat était parfaitement licite. Enfin, téléchargement illicite et droit du travail, il y a déjà plusieurs décisions en ce sens. Je pense que vous savez tous que télécharger illicitement sur son lieu de travail, sur son poste de travail, cela peut constituer une faute grave, donc mise à pied immédiate, sans indemnité. Alors maintenant, le bilan de la loi Hadopi et l'enjeu. Le bilan à la mi-juin 2011 sont des chiffres qui ont été cités récemment dans tous les médias la semaine dernière. Donc aujourd'hui, 400 000 recommandations ont été envoyées par la Hadopi. Il n'y a pas eu de suspension de service à ce jour, pas d'action pénale. Dans les actions donc, pour favoriser le téléchargement illicite, on peut citer la carte musique qui a été créée par le décret du 25 octobre 2010 qui est destiné aux 12-25 ans. Et qui donc leur permet d'acheter de la musique globalement à moitié prix sur les sites partenaires. Dans le bilan, il y a également, et là c'est extrêmement récent, la labellisation de sites de téléchargement. Et 17 plateformes ont été officiellement labellisées la semaine dernière, donc avec le fameux logo PUR. Dans ces sites, on peut par exemple citer le site que tout le monde connaît, Deezer. Il y a un autre label qui est attendu, c'est le label donc, sur les moyens de sécurisation. Et ça, c'est un label qui va être extrêmement important pour les entreprises donc, qui doivent garantir la sécurité de leurs services d'accès en ligne. Maintenant, on doit constater que, comme on l'a vu, l'adresse IP est un élément central donc, du fonctionnement de la poursuite du téléchargement illicite et de la sanction du téléchargement illicite. Et c'est un obstacle, la gestion de l'adresse IP est un obstacle majeur, puisqu'il y a des moyens d'échapper à ce mode d'identification qui donc n'est pas fiable et n'est pas suffisant surtout, puisqu'il y a, comme vous le savez tous, des adresses IP dynamiques. Il y a également l'usage généralisé du VPN, donc le réseau virtuel privé, qui permet donc de masquer l'adresse IP. Il y a également, et là tout le monde s'en vante allègrement, et ça a déjà été dit largement aujourd'hui, l'usage du Wi-Fi et donc le sport qui consiste à télécharger illicitement à partir de chez le voisin. Maintenant, les obstacles juridiques, et là on est en matière d'Internet, c'est un obstacle auquel on se confronte dans tous les domaines du droit, c'est le fait que l'Internet est par définition un média international, un média mondial, et que pour échapper à l'application de la loi française, les sociétés de téléchargement illicite, les sites sont domiciliés à l'étranger. Mega Upload, c'est Hong Kong par exemple. Les effets pervers des lois Hadopi, il y en a toujours, bien entendu. En l'occurrence, là, ce que l'on peut constater, c'est que le pair-à-pair a été donc la cible majeure des lois Hadopi lorsqu'elles ont été discutées et votées. Et que donc finalement, il est peu à peu délaissé au profit essentiellement aujourd'hui du téléchargement direct. Et que là, c'est le site laquadrature.net qui le cite, donc c'est un site anti-Hadopi, je dois le dire, mais qui constate que ce report donc, vers le téléchargement direct a pour conséquence un encombrement du réseau. Alors là, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, nous avons donné la source, mais ils sont assez phénoménaux. Donc, par exemple, sur Mega Upload, qui est un site de téléchargement illicite, hein, mais... donc, il y avait en août 2008 350 000 visiteurs français par mois. Et en novembre 2010, il y en aurait 7 400 000. Donc, site de téléchargement direct illicite. À nouveau, les effets pervers, c'est à nouveau la domiciliation à l'étranger et l'offre, et donc le développement à l'étranger d'une offre illicite qui n'est pas contrôlée. Alors, le bilan et l'enjeu. L'enjeu, il est extrêmement important, puisque c'est un phénomène de société. D'abord, l'enjeu juridique et économique. L'enjeu, c'est le respect des droits d'auteur et on n'en parlera jamais assez, c'est la rémunération de l'auteur. Pour créer, les auteurs doivent pouvoir vivre, assurer leur subsistance. Il est normal qu'ils aient une rémunération comme n'importe quelle personne qui crée un bien et une valeur. La solution de la licence globale est-elle toujours d'actualité? Serait-elle une solution alternative ou complémentaire aux lois Hadopi telles qu'elles existent aujourd'hui? La discussion est ouverte. En ce qui concerne l'adresse IP, qui est donc un mécanisme clé du système de contrôle tel qu'il existe aujourd'hui, on a pu s'interroger pour savoir si la création donc, des adresses IPv6 allait empêcher l'anonymat. La réponse est non. Le VPN pourra continuer à exister avec les adresses IPv6. L'enjeu culturel, il est de taille. Il s'agit donc du respect de la création, de la diversité de la création et de l'accès à la création. Nous sommes dans une société de consommation de masse et je pense que cet enjeu culturel est d'autant plus important et qu'il faut être absolument extrêmement vigilant, sinon le risque c'est que l'on ait effectivement une offre pléthorique mais de mauvaise qualité, ce qui serait absolument pas un progrès culturel ni un progrès de société. Il y a un enjeu au niveau de chaque entreprise, donc c'est la nécessité pour chaque entreprise de sécuriser son accès, de définir une charte d'usage avec ses salariés et également, par exemple, si elle a un hôtel ou si elle donne un accès en Wi-Fi au public, une charte d'usage de son Internet avec ses clients. Alors, on a beaucoup dit que le téléchargement illicite, c'était un phénomène générationnel, c'est vrai. Les jeunes ont traditionnellement un comportement transgressif, ils ont également peu de moyens financiers, donc il est clair que les jeunes sont la première cible pour télécharger illicitement. Je pense que ce n'est pas la seule explication, car le phénomène est trop massif. On cite des chiffres tellement phénoménaux que ça ne peut pas être uniquement le fait de notre jeune génération. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette jeune génération, quand elle va grandir, va continuer à avoir ce même comportement? Elle va probablement modifier son comportement. Mais je pense qu'il y a une tendance de fond que l'on ne peut pas ignorer, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui également, et pas seulement la jeunesse, également d'autres enjeux à la société. Nous sommes en matière d'Internet, il y a donc cette tradition de l'Internet, d'un comportement libertaire et d'une attitude communautaire, une volonté de partage, et également une critique des modèles économiques actuels avec donc des chaînes de production trop longues qui font que finalement la rémunération de l'auteur est considérée comme trop peu importante par rapport à la rémunération par exemple des majors, des intermédiaires. Donc je pense que le débat est ouvert, qu'on peut se poser, qu'on peut anticiper des évolutions très variées. On peut imaginer, et c'est déjà le cas, que grâce à Internet, des auteurs de très grande qualité vont pouvoir être identifiés et reconnus par le public. Est-ce que l'imagination des internautes et des informaticiens va conduire à la création de nouveaux modes de diffusion des œuvres sur Internet dans le respect des droits de l'auteur et en préservant un mécanisme de rémunération de l'auteur? Pourquoi pas? Est-ce que ce sera suffisant pour protéger la création et pour assurer le respect des droits de l'auteur? Je pense que ce ne sera également pas suffisant. Et je pense que pour l'avenir, il faut probablement des réponses multiples. Hein, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, la situation reste insatisfaisante. Je vous remercie.